Le retour de Radio X.
Avec DH, Jordan et Mel Trudel.
Radio X.
And here we go. 10, 9, 8, 7. RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1. Booster ignition. And lift off. The crew of Artemis II, now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins.
Good roll pitch.
Roger, roll pitch.
Houston, now controlling the flight of Integrity on the Artemis II mission around the moon.
Dans le retour de Radio X, l'enquêteur du paranormal. Christian Page.
Monsieur Page, je vous ai écrit hier en vous disant que le meilleur pour nous en parler sur la planète, c'est vous, Artemis 2.
Ouais, ben, ça... Moi, après toute la colonie des astronautes et des astrophysiciens...
Oh, mais t'as bon, des bons contacts. Monsieur Page, j'étais avec un ancien astronaute, c'est ça?
Oui, ouais? J'étais avec David Saint-Jacques hier matin.
Il est excellent, et, David.
Ouais. Oui, quel type sympathique.
Ouais,
et il vulgarise bien la matière. Vraiment extraordinaire. Un très, très bon porte-parole pour l'Agence spatiale canadienne.
Bon, là, on sera discipliné que ça, en ce sens qu'on a un beau 15 minutes, mais on va se garder un 3 minutes pour le Bigfoot, OK? Je vais te faire entendre un extrait.
OK.
On finit ça en beauté. La gang du Spacecast hier, ils ont jasé avec... c'est une dame, je pense que c'est une dame.
Oui, c'est Sabine Blais du Eastern Canada, Sasquatch Organization.
OK. Ah. Ouais, c'est ça. Mais je veux que tu commences ce qu'elle a dit sur nos ondes. Hier, oui. Moi, j'ai rebarré mes portes depuis hier. Chez nous, c'est ça. Alors, monsieur Page, Artemis 2, parlez-nous-en, c'est excitant, ça. Écoute, hier, j'étais chez nous dans le salon, mais quasiment un petit vino.
Tout à fait. On entend dans l'extrait que vous avez présenté, hein, le narrateur dit, voilà, c'est un nouveau voyage pour l'humanité, là, un nouveau challenge. Et effectivement, c'est le retour d'astronautes autour de la Lune, et ça fait plus de 50 ans maintenant qu'on ne l'a pas fait. Faut-il le rappeler, les dernières missions Apollo remontent à 1972. On est en décembre 1972. Et ensuite, le programme Apollo a été abandonné pour toutes sortes de raisons, mais principalement budgétaires. Et la NASA s'est consacrée à des programmes qu'on pourrait qualifier de en orbite basse, c'est-à-dire qu'on a développé le système des navettes spatiales et ensuite on a développé la station orbitale internationale qu'on utilise encore de nos jours. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'au moment où il y avait le lancement d'Artemis hier, il y avait quand même des astronautes dans la station spatiale qui ont observé du haut du ciel le lancement d'Artemis. Hein? Donc, c'était quand même extraordinaire. Et là, voilà, donc, pour la première fois, on retourne vers la Lune. Les astronautes, ce ne sera pas un alunissage. On ne se posera pas sur la Lune. On va faire le tour de la Lune et on va revenir. Et ensuite, la prochaine mission, Artemis 3, qui était au départ destinée à amener des hommes sur la Lune, elle sera retardée, cette mission d'alunissage, pour Artemis 4. Artemis 3 va être une grande répétition en orbite, et puis Artemis 4 devrait envoyer des hommes sur la Lune. Ce qui est important de mentionner également, c'est que le programme spatial, au cours des dernières semaines, on a appris qu'il y avait eu une modification très importante dans le programme de retour vers la Lune, ce qui avait posé beaucoup de problèmes. Et dès qu'on parle de retour sur la Lune, on comprend il y a toutes les théories du complot. Et parmi les théories du complot, c'était comment se fait-il qu'on y soit allé dans les années 60, avec une technologie qui était relativement archaïque. Et aujourd'hui, avec tous les mécanismes que l'on a, ça devient si difficile. Bon, en fait, c'est parce que les raisons d'y retourner ne sont pas les mêmes. Hein. Dans les années 60, fin des années 60, début des années 70, l'émission Apollo, c'était on envoie des types, ils ramassent des roches, puis ils reviennent. Donc, c'était un aller-retour. Donc, on avait la technologie pour faire ça. Mais on comprend que si l'objectif de la NASA avait été d'envoyer des hommes ramasser des cailloux et revenir, bien, c'est sûr que la technologie pour faire ça, on l'a et on aurait pu le refaire depuis longtemps. Mais c'est pas ça qui est l'objectif. Et on l'a entendu hier pour ceux qui ont suivi le lancement d'Artemis 2. L'objectif, c'est on veut une occupation permanente sur la Lune. On veut y aller, on veut installer des colonies.
Une base.
On veut se préparer. On veut que la Lune devienne un pas de tir pour aller vers Mars et d'autres destinations dans notre système solaire.
On veut-tu le faire aussi, Jean? Sais-tu qu'on veut le faire dans les Chinois, là, qui...
Tout à fait raison, Danny. On voit ici une espèce du déjà-vu, hein, parce que avec le programme Apollo, l'objectif était d'envoyer des hommes sur la Lune et dans les 3-4 dernières années, on a vu de plus en plus se préciser ce bras de fer entre l'ancienne Union soviétique et les Américains pour être les premiers arrivés sur la Lune. Et là, voilà qu'aujourd'hui, les ennemis d'autrefois ont changé. Maintenant, c'est la Chine. Et la Chine met beaucoup de pression. La Chine a annoncé que bientôt, elle enverrait des hommes sur la Lune. Donc, les Américains ne veulent pas se faire damer le pion. On ne veut pas revivre un peu ce cauchemar de la course à la Lune dans les années 60. Faut-il le dire, hein? Dans les années 60, les Américains s'étaient fait damer le pion à deux reprises par les Soviétiques. Premier humain dans l'espace, Yuri Gagarin, c'était les Soviétiques. Et la première marche, donc la première sortie extravéhiculaire dans l'espace, Alexis Leonov, donc avant les Américains, donc sur ces deux grandes prouesses, les Soviétiques avaient été les premiers. Donc on comprend que les Américains ne voulaient pas continuer à être toujours deuxième, d'où l'envoi des hommes sur la Lune en 69 dans un projet qui avait été un peu précipité, mais qui a bien fonctionné. Hein. On sait aujourd'hui, quand on regarde les fiches techniques des programmes Apollo, on se rend compte que vraiment, on a joué les cow-boys. Hein. On sait aujourd'hui que la mission Apollo 11, celle qui a amené les premiers astronautes sur la Lune, avait 50% seulement de chances de réussite et 50% de chances d'échouer. Donc, une chance sur deux. Donc,
mais je te posais la question, mais je te la pose la question à toi, je l'ai posé à mes co-animateurs hier. Si on te dit, Christian, tu as la chance d'aller d'être le premier ou dans les premiers humains aller sur Mars et d'atterrir sur Mars, mais on n'est pas sûr que tu reviens. Est-ce que tu risques ou pas?
C'est une question existentielle. Hein. C'est sûr que... Et la preuve, c'est que les astronautes d'Apollo 11, ceux qui ont marché, hein, c'était Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Mike Collins était resté dans le vaisseau en orbite. Ces gens-là savaient qu'ils avaient une chance sur deux de ne pas revenir. Et pourtant, ils ont fait le choix d'y aller. Ils l'ont fait au nom de l'humanité, au nom de l'avancement de la science et au nom de la patrie aussi. Ça vient un peu avec le... C'est un peu comme aller... les militaires qui vont à la guerre, ils savent bien qu'ils ont des chances de ne pas revenir, mais on le fait pour la patrie, on le fait pour la nation. Donc, il y a une espèce d'engouement autour de ça, mais bon, ils ont fait ce risque-là. Et là, donc, maintenant, on envoie ces astronautes autour de la Lune. Ce qui est amusant avec Artemis, si on va...
Mais t'as pas répondu à ma question.
Probablement. Si tu me posais la question, si j'étais le premier homme à marcher sur Mars...
C'est quelque chose de spécial.
Voilà, on va passer. Je passe quand même à l'histoire. Là, oui. C'est un peu comme encore aujourd'hui, 50 ans après les astronautes sur la Lune, hein, souvent on entend des phrases, que ce soit dans des films ou à la blague, on entend quelqu'un dire « c'est un petit pas pour l'humanité ». Mais tu sais, c'est une phrase qui avait été lancée par Neil Armstrong et qui est passée dans le discours populaire. Hein. C'est une phrase clé. « Oh, c'est un petit pas pour l'humanité ». Mais bon, c'est vrai que c'était la fameuse phrase qui a marqué le débarquement de l'homme sur la Lune. Dans le cas d'Artémis, ce qui est amusant, et là j'en reviens un peu hier quand j'étais avec David Saint-Jacques, il y avait une espèce de mêlée de presse, et David Saint-Jacques dit aux journalistes, il dit, vous savez, c'est la première fois que les astronautes auront la chance d'observer la face cachée de la Lune. Et après ce point de presse, j'étais avec David Saint-Jacques de côté, puis je dis, tu sais que si tu continues à dire ça, éventuellement, les complotistes vont récupérer ta phrase pour alimenter le scénario du complot. Et David Saint-Jacques, qui n'est pas du tout branché complot, il me regarde, mais pourquoi? Parce qu'en réalité, ce que David Saint-Jacques dit, puis je sais que ça va être récupéré par les complotistes, c'est extraordinaire de quelle façon ils ont de détourner le discours. Mais en fait, c'est vrai que dans les années 60, lors des missions Apollo, fin des années 60, début des années 70, la face cachée de la Lune, on l'a survolée. Mais pour des raisons techniques, on comprend, tous les alunissages se sont faits durant le jour lunaire, donc pendant que la face qui nous fait face, hein, parce qu'on voit toujours la même face de la Lune, cette face qui nous fait face était éclairée parce qu'on voulait que les astronautes se posent dans la lumière. Donc, les astronautes se posaient de ce côté-là éclairé. Et il y avait, donc, on avait les deux marcheurs sur la Lune et le troisième astronaute, celui qui est resté en orbite, qui était dans ce qu'on appelait le module de commande, lui orbitait autour de la Lune. Donc, forcément, comme il orbitait autour de la Lune, il passait au-dessus de la face cachée de la Lune. Le problème, c'est que comme les astronautes l'alunissage se faisait en zone éclairée, donc la zone qui nous fait face, les astronautes ou l'astronaute qui était dans le module de commande, lorsqu'il passait devant la face cachée de la Lune, elle était toujours dans l'obscurité. Donc, quand il regardait par les hublots, il ne voyait qu'une grande surface tout à fait noire. Donc, les photos que l'on a éclairées de la face cachée de la Lune ont toutes été prises par des sondes spatiales qui ont orbité autour de la Lune, mais pas durant les missions Apollo. Toutes les fois où il y a eu des missions Apollo, la face cachée de la Lune était dans l'obscurité, donc les astronautes ne l'ont pas vue. Quand je disais ça à David Singer, c'est parce que, tu sais, quand tu dis ça, c'est la première fois qu'on va voir, et les complotistes vont dire, ouais, mais les missions Apollo, quand ils passaient, hein, ils le voyaient. Pourquoi? Est-ce que David Singer qui est en train de nous dire qu'on n'a jamais été sur la Lune? Mais non. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que pour la première fois, parce que là, comme il n'y a pas un alunissage, la NASA donc choisit un moment où ce sera l'éclairage, hein, le jour lunaire sera sur l'autre face de la Lune, mais sur la face cachée. Donc, pour la première fois, des humains vont voir de leurs propres yeux. On a quand même des photographies qui ont été prises par des sondes, notamment par Artemis 1, il y a 2 ans. Mais là, pour la première fois, des humains vont voir de leurs propres yeux à quoi ressemble la face cachée de la Lune, parce qu'elle sera complètement éclairée par le soleil.
Et durant ça, ce moment-là, Christian,
c'est extraordinaire.
Les communications sur Terre vont être coupées pendant 30 minutes, puis
tout
jamais les astronautes auront été aussi loin de la Terre. Ça va être une première pour les humains quand même. C'est quelque chose de spécial.
Oui, et... Okay. Non seulement, j'allais dire, je viens de rebondir sur ce qu'on vient de dire. Non seulement, beaucoup de gens se sont dit, est-ce que la mission Artemis va permettre de voir les sites d'alunissage des missions Apollo? Non, parce que le tour autour de la Lune se fait sur une orbite large. Donc, on est beaucoup trop loin pour voir les sites d'alunissage. Quoique les sites d'alunissage ont été photographiés par des sondes indiennes, notamment et japonaises. Des très, très belles photos. Les gens peuvent aller voir sur des sites de photos où on voit les vaisseaux sur la Lune. On peut même voir les empreintes laissées par les astronautes. Mais dans le cas d'Artemis 2, l'orbite autour de la Lune sera très, très large. Donc, on va pouvoir avoir des vues d'ensemble où on va voir la Lune et au loin la Terre. Mais c'est fantastique. Jamais des êtres humains n'auront été aussi loin de la Terre et jamais des êtres humains auront eu une vision comme celle-là de notre environnement spatial. C'est extraordinaire. Ouais.
Quels sont les dangers de cette mission-là, Christian?
Il y en a un million de dangers. Hein. Dès qu'il y a un système qui... Bon, évidemment, on a passé l'étape la plus difficile, qui est toujours le lancement. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, le vaisseau Orion, il est placé au-dessus de ce qu'on pourrait qualifier d'une bombe. Hein. Je veux dire, on a 2 fusées d'appoint, plus le réservoir principal. S'il fallait que l'un de ces réservoirs-là explose, comme on l'a vu malheureusement avec la navette Challenger. D'ailleurs, la navette était un mauvais concept. Hein. Le vaisseau est accroché sur le côté. Il y a peu de chances d'échapper. Quand on regardait hier la fusée Orion, on voit qu'au sommet du vaisseau Orion, il est enveloppé dans une espèce de coquille, et au sommet de cette coquille, il y a une fusée, une petite fusée. Cette fusée-là, c'est une fusée de sécurité. Si éventuellement on détectait à la dernière seconde des explosions dans les réservoirs, cette fusée-là entraînerait avec elle le vaisseau Orion pour qu'il puisse se poser plus loin dans l'océan. Donc, l'explosion serait en dessous, pas sur le côté. Donc, les chances des astronautes de survivre à une telle explosion seraient beaucoup plus grandes. C'est le moment crucial du départ. C'est un des moments cruciaux de la mission, le départ, le retour, parce qu'il pourrait arriver. Là, au moment où on se parle, en dehors d'un problème comme on le voit avec Apollo 13, par exemple, l'explosion d'un réservoir à l'intérieur qui va remettre en péril le vaisseau. Mais disons que pour l'instant, c'est ce soir, aux alentours de 20 heures, le vaisseau va se mettre sur son orbite vers la Lune. Donc là, au moment où on se parle, il tourne autour de la Terre, il va se mettre en... Et vers 20 heures, il va allumer ses propulseurs pour se lancer vers la Lune. Ce sont des parties relativement, dirons, moins dangereuses. Ça reste... Aller dans l'espace, c'est toujours dangereux. Mais la prochaine étape, c'est le retour. Au moment où le vaisseau va rentrer sur Terre, il doit être protégé par un bouclier thermique. S'il devait arriver un problème avec ce bouclier thermique, le vaisseau Orion va s'enflammer et les astronautes vont périr. Et donc, c'est la grande étape. Une fois qu'il aura, il y aura cette période d'entrée, il aura traversé les couches supérieures de l'atmosphère. Là, à ce moment-là, c'est l'ouverture des parachutes et la récupération de l'équipage. Mais la prochaine étape vraiment très dangereuse, bien sûr, c'est la rentrée.
Écoute, il nous reste 3 minutes. T'es vraiment sur la pine, comme on dit. Je veux te faire entendre un extrait. Peut-être que, Jordan, si tu peux nous identifier la personne qui est en entrevue, c'est ça, ou l'organisation, là?
Oui, c'est Sabine Blais qui est du côté du Eastern Canada Sasquatch Organization. Elle a jasé hier avec GF Rich Blais et Louis Gauvin dans le Spacecast. Puis on vous a sorti un petit extrait là-dessus. On va l'écouter ça.
100% convaincu, hors de tout doute, que le Sasquatch existe ou il y a encore une partie de vous à l'intérieur qui a un petit doute tant que vous n'aurez pas de vraies preuves tangibles?
Moi, je suis 200% convaincue qu'il existe.
Ah oui?
Ah oui, moi, je suis convaincue qu'il existe. Parce que je connais beaucoup de gens, je connais d'autres chercheurs ici en Québec et en Ontario, puis on en parle dans différentes régions, puis je connais plusieurs personnes qui disent qu'ils les ont vus ou qu'ils les ont entendus. Il y a un groupe en Ontario, dans le nord de l'Ontario, justement, Ontario Sasquatch, sont à North Bay, et puis eux, ils ont eu plusieurs rencontres avec eux déjà. Ils vont dans le bois, ils campent.
Avec les Sasquatch?
Oui, avec les Sasquatch.
T'en connais-tu, toi, Christian?
J'en ai rencontré. J'ai moi-même participé, on était en 2004, j'ai participé à une expédition Sasquatch en Colombie-Britannique.
Ah, ouais.
Donc, dans le nord de la Colombie-Britannique, pratiquement à la frontière du Yukon. Et bon, ici, le problème, c'est le mot croyance. Hein. Je veux dire, les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent. La croyance, elle est légitime. Mais entre dire « je crois », on doit se dire à un moment donné « OK, mais où sont les preuves? » Il y a plein de gens, on est la semaine sainte. Ben, beaucoup de gens vont dire ben, « Je crois en Dieu, je crois en Jésus. Je crois... » Oui, parfait. La croyance est légitime, mais si on met là-dessus un discours scientifique, on dit ben, « Où sont les preuves? » Et que ce soit dans le cas du Sasquatch, ben, faut bien le dire, hein, ces preuves-là, elles n'existent pas. Et ceux qui ont prétendu en avoir, et ça, c'est peut-être très important de retenir ça. Il y a des gens, on a mentionné « Ah, Sasquatch Ontario, Sasquatch... » Il y a plein de groupes dans le monde, et particulièrement en Amérique du Nord, qui s'intéressent au Bigfoot, au Sasquatch, qui prétendent avoir des preuves.
Okay, personne n'avait des cellulaires.
Oui, c'est ça. Mais si on parle de preuves, on parle de preuves matérielles, hein, des poils, des excréments, toutes sortes d'éléments comme ça. Or, il y a il y a quelques années maintenant, il y a un scientifique qui était le directeur du laboratoire de recherche ADN de l'Université d'Oxford qui a proposé à ces gens-là, ils ont dit « OK, vous avez des preuves, des poils, des crachats, des petits bouts de crotte, envoyez-moi tout ça. On va analyser ça. » Et il a reçu 57 échantillons. Sur les 57 échantillons, il y en avait 27 qui étaient inutiles, qui n'étaient pas utilisables, parce que, bon, c'était des fibres synthétiques où on a pu identifier exactement ce que c'était. Et dans la trentaine qu'on a pu analyser au niveau de l'ADN, donc là, on avait vraiment une trentaine d'échantillons prétendument provenant du Bigfoot, récupérés par des groupes un peu partout à travers l'Amérique du Nord. Et là, on a suivi les bonnes règles de la science, on a étudié ça, on a soumis ça à des tests ADN, et d'après vous, combien de ces résultats-là ont révélé un hominidé inconnu?
Zéro.
Zéro. Zéro. Aucun. Toutes les poils, c'était des poils d'autre chose, les crottes d'autre chose. Zéro. Donc,
ça ferait la une.
Donc, on peut se réunir et dire « Ah ouais, moi, je crois au Bigfoot. » Puis il y a Marcel. Marcel, il y a un petit bout de crotte de Bigfoot chez lui. Puis Monique, elle l'a entendu crier dans le bois. Parfait. Mais ça, c'est des belles histoires qu'on se raconte en mangeant des marshmallows là, autour du feu. Quand on pose la question de la science, on dit « OK, il y a des communautés d'hominidés inconnus. Ils sont où? » Uniquement pour le nord de la Californie. Hein? Puis je vais terminer avec ça. Hein, uniquement dans le nord de la Californie. Pour qu'on ait une population viable. On a posé la question à des chercheurs, des spécialistes dans la faune, hein, des spécialistes de la faune pour les lynx, les cougars et tout le reste. On dit, OK, si c'était des cougars, par exemple, si on avait des cougars, combien faudrait-il d'individus pour avoir une population viable si on prend essentiellement les forêts du nord de la Californie? C'est plus de 3000 membres. Donc, imaginez-vous, là, on parle uniquement du nord de la Californie, 3000 Sasquatch qui se promènent dans le bois, puis il n'y a jamais personne qui les prend en photo.
C'est ça. C'est une joke.
La croyance est légitime.
C'est un humoriste, on va se le dire. Là.
Voilà, donc c'est la croyance est légitime. Je parle, les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent. Mais si on essaie d'appliquer le discours scientifique, moi, les gens vont dire que Christian Page, je crois en rien. C'est faux. Je crois en une chose, la science.
Ouais. Écoute, moi, je t'en parle pas souvent, mais à tous les jeudis, après notre chronique, vers 7h30, je vois tout le temps une soucoupe volante au-dessus de Lévis. Tout le temps. Mais je sais pas, mon cellulaire, il est tout le temps plat.
Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de batterie.
Je suis une page, un groupe Facebook là, où les gens partagent des trucs, puis c'est vrai que c'est toujours flou, mais les gens disent, ouais, mais
Pourtant, quand je le filme, c'est clair, mais là, quand j'ai l'image vidéo, c'est toujours flou.
Ah, ça, c'est ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que ça nous montre, non pas qu'il y a quelque chose de bizarre, ça nous montre à quel point notre cerveau fait des liens ou recrée une réalité qui n'est pas la réalité. Notre cerveau aime pas le flou. Donc, à partir où on voit 2-3 petits points dans le ciel, notre cerveau va se mettre à imaginer qu'il y a un objet sombre qui réunit ces points-là. Et quand le témoin va parler, il va dire « Oui, je regardais dehors, j'ai vu 3 lumières, puis il y avait comme une espèce de triangle sombre au milieu. » Puis quand on regarde la photo, c'est 3 petits points de lumière. Voilà.
Merci, on est là demain 18h.
Ça marche.
Salut. Salut. Hey, au retour. En fait, dans les prochaines minutes, Yann Alperin va jaser avec nous. Semble-t-il qu'il y a beaucoup à nous dire sur Tiger Woods. Restez là.
Le retour de Radio X.
Petite pause.
OK.
On revient dans pas long.
Radio X.